Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Choses, je vous les ai dites tant que je demeure avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, va tout ce que je vous ai dit. Paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne que je vous la donne. Cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'effraie pas. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi, pour que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne vous parlerai plus beaucoup, car il vient le prince de ce monde, et contre moi, il ne peut rien. Mais que le monde le sache, j'aime le Père, et ce que le Père m'a ordonné, je le fais. Nous sommes évidemment en communion de prière avec les pèlerins des deux pèlerinages de Chartres, notamment avec l'abbé Philippe Laguéry, mon modérateur général, qui prêche aujourd'hui sur le cadre du pèlerinage Paris-Chartres. Voilà, que le Saint-Esprit le comble de ses dons pour qu'il puisse enseigner aux fidèles et puis même ses confrères, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez tous assisté à un feu d'artifice. J'entends un feu d'artifice, non pas ces feux de Bengale en kit qu'on achète et que l'on fait sauter soi-même dans le jardin pour le plus grand amusement des enfants et peut-être un peu souvent l'inquiétude des épouses qui voient leur mari se transformer en apprenti artificier. Je ne parle pas de ces petits feux d'artifice qui sont très sympathiques, mais qui n'ont rien à voir avec les grandes manifestations gigantesques offertes par les municipalités qui ont un peu d'argent. En feu d'artifice de Paris du 14 juillet, ou, si vous préférez, selon les heures, puisque le 14 juillet, tous ne portent pas la même vénération que notre bonne République à cette fête, eh bien, il y a également les nombreuses occasions au château de Versailles, tout l'été, sur fond de musique baroque, de célébrer la gloire révolue des rois de France. C'est ce genre de feu d'artifice qui me fait penser, de loin, rassurez-vous, à la fête de la Pentecôte. Et plus largement, en réalité, à tout le temps pascal. Parce que qu'est-ce qu'il s'est passé depuis la nuit de Pâques? Nos yeux sont éblouis de mille feux. Ça a d'abord été la fête des Lumières, c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'Église primitive, la fête des Lumières, la résurrection du Seigneur à Pâques. Ça a été ensuite sa montée formidable au ciel avec cette fête de l'Ascension. Tout cela nous a très fortement impressionnés, je l'espère en tout cas, à la mesure de notre préparation quadragésimale. Mais parce que le temps pascal dure longtemps, petit à petit, nous nous sommes habitués, nous nous sommes laissés engourdir par tous ces feux. Alors que fait le bon Dieu? Eh bien, pour nous tirer de notre torpeur, tout à coup, je reprends là les actes des apôtres, tout à coup vint du ciel un bruit semblable à celui d'un fort coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Puis ils virent apparaître semblable à du feu des langues qui se partageaient, il s'en posa une sur chacun d'eux. Les lueurs de Pâques et de l'Ascension se sont étiolées, elles se sont éteintes désormais, et voici, pour continuer, pour filer la métaphore, eh bien voici le bouquet final. Et quel bouquet final, avec ces puissantes décharges qui vous vont jusque dans les tripes. Je pense que vous avez déjà ressenti ça devant un feu d'artifice bien fait. Un bouquet final, normalement, ça vous remue. Et même si vous vous y attendez, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être plaqué par ces éclats à la fin. Vos yeux sont saturés de lumière, bref, vous êtes aux anges. Pourquoi tant de vacarme? Pourquoi ce bouquet final permis par Dieu? Eh bien, tout simplement parce que ce que l'on fête au Cénacle, le jour de la Pentecôte, la première Pentecôte, est ce que l'Église nous met devant les yeux par la liturgie chaque année à la Pentecôte, c'est ni plus ni moins que la naissance de l'Église. Alors, avouons-le, cette naissance, quand on sait ce qu'est l'Église, elle valait bien un feu d'artifice, j'allais dire de tous les diables, mais un feu d'artifice du grand Dieu. Et l'introïde, alors nous avons une scola réduite aujourd'hui, mais l'introïde, normalement, aurait dû nous faire l'impression de ce feu d'artifice. Avec ces paroles, l'Esprit du Seigneur a envahi, a envahi l'univers entier. C'est pas seulement la petite salle du Cénacle. À la Pentecôte, c'est tout l'univers qui a été petit à petit gagné par cette espèce de détonation formidable du Cénacle. et l'introïde de poursuivre en laissant éclater 4 Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'introïdes dans lesquels on retrouve 4 Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire Alléluia? En hébreu, ça veut dire rendons gloire à Yah, à Yahvé, rendons gloire à Dieu. Vous voyez donc que c'est un événement absolument extraordinaire qui se déroule le jour de la Pentecôte. Alors, il faut se réveiller de notre torpeur et considérer un petit peu plus avant de quoi il s'agit. L'Ancien Testament connaissait, vous le savez sans doute, la fête de la Pentecôte. On l'appelait la fête des semaines. Elle avait une double dimension, comme très souvent les fêtes de Pâques. Elle avait une dimension de fête agricole, puisqu'on honorait les prémices des moissons, déjà, et on les offrait à Dieu, en gage de déférence, et plus profondément, deuxième dimension, on commémorait un événement religieux, à savoir le don de la loi à Moïse par Yahvé, et donc la naissance du peuple juif. Paul, on offre les prémices des moissons, dimension religieuse, don de la loi qui constitue pour la première fois le peuple juif. Comme souvent, et conformément aux paroles du Seigneur, je ne suis pas venu abolir mais accomplir, l'Église a repris à son bénéfice cette fête de la Pentecôte avec sa double dimension. Seulement, comme tout ce qu'a fait le Seigneur, elle a accompli, elle a porté à son incandescence la Pentecôte ancienne jusqu'à finalement faire éclater le cadre juif. De quoi s'agit-il quand je parle d'une double dimension? Mais oui, il y a effectivement dans le jour de la Pentecôte le don de la loi nouvelle, c'est plus la loi ancienne qui constitue un peuple séparé de tous les autres et que Dieu force à se séparer des autres peuples par des massacres, par un système défensif. C'est désormais la loi nouvelle qui, bien au contraire, institue un peuple qui a une vocation universelle, qui est fait pour s'ouvrir à tous les vents. D'où le nom de catholique. L'Église catholique n'a plus rien à voir avec le peuple juif. Dieu avait voulu que le peuple juif soit dans un camp retranché parce qu'il voulait lui apprendre à se séparer de la culture païenne et à lui vouer le vrai culte. C'était donc bon, c'est ce que voulait Dieu. Mais désormais, il veut un peuple qui soit prosélyte et qui aille au-devant des autres peuples, qui inclut dans son sein petit à petit les autres peuples. Vous voyez donc que le don de la loi nouvelle n'a pas grand-chose à voir avec cette loi ancienne qui constitue un peuple fermé sur lui-même selon les vœux de Dieu. Je ne mets aucune critique, c'est selon les vœux de Dieu. Et puis, deuxième dimension, qui poursuit un petit peu cette connotation agricole de la Pentecôte juive, où il s'agissait d'offrir les prémices des moissons, désormais ce sont les prémices des récoltes, mais au sens spirituel, des récoltes apostoliques, qui sont offertes le jour de la Pentecôte. Le jour même de la Pentecôte, 3000 personnes, nous dit-on, se convertirent. Ou plutôt 3000 personnes demandèrent le baptême et le reçurent. Rendez-vous compte un peu de ces premières prémices, gage évidemment des futures moissons de l'Église qui se développera au fil des siècles. En somme, on retrouve bien les deux facettes de la Pentecôte juive, mais on les retrouve surdimensionnées et spiritualisées. Le don de la loi nouvelle dans le cœur des disciples, avec constitution de ce peuple nouveau, l'Église, et les premières moissons apostoliques. Voyons un petit peu ces deux dimensions de plus près, si vous le voulez bien, le don de la loi nouvelle. Alors je sais ce que disent de nombreux profanes qui m'entendraient, je sais ce qu'ils pourraient dire, je sais ce qu'ils disent à longueur de temps à l'encontre de l'enseignement de l'Église. Ils nous disent, c'est quand même terrible, on nous parle de loi en permanence dans votre religion, vous prétendez être la religion de la liberté, notamment par saint Paul, on nous dit que l'esprit libère et la loi atrophie, je ne sais quoi, mais en permanence vous êtes en train de parler de la loi. Et aujourd'hui, alors que la Pentecôte, dans le texte des Actes des Apôtres, est un événement de liberté, avec du feu qui sort du ciel, avec une joie, avec des personnes qui s'expriment dans toutes les langues, devant tout le monde, c'est très cosmopolite, vous voyez, et voilà que vous nous parlez de loi. Bien vous, les catholiques, vous ayez un problème à vouloir retrouver une loi partout. Êtes-vous en mal de schlag ou en mal de... Voilà. C'est ce qu'on ne cesse de nous dire, vous êtes une religion qui oppresse et une religion qui veut déceler une loi partout. Et derrière des allures gentilles, en réalité, vous vénérez le Dieu terrible qui impose un carcan de fer. Mes chers amis, je reçois l'objection que nous font les profanes. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que nous entendons, nous autres, par loi. Ils sont victimes de la conception moderne de la loi. Chape totalement extrinsèque qui vient s'imposer sur l'individu et lui dicter un comportement de l'extérieur, sans lui donner les motifs ultimes de la conduite qui leur est demandée. C'est vraiment Kant. Il faut parce qu'il faut, il est nécessaire parce qu'il est nécessaire. Ne réfléchis pas, obéis, sois un bon citoyen. Alors s'ils ont cette acception de la loi, je comprends que l'évocation de la loi le jour de la Pentecôte leur pose problème. Ça paraît enfermer cet événement majestueux de la Pentecôte dans un cadre beaucoup trop strict. Effectivement, si telle est la loi, je me tais. Mais je maintiens. L'événement majeur à la Pentecôte, c'est le don de la loi nouvelle. Laquelle ? C'est là qu'il faut s'entendre. Eh bien, les pères de l'Église, saint Augustin en tête, et toute la tradition, saint Thomas en tête, ont insisté sur la succession de lois au fil des siècles. Lois que Dieu a imposées pour sceller les alliances, afin de restaurer l'amitié avec la race humaine, amitié perdue depuis le péché des origines, comme on sait. Il faut concevoir chacune de ces lois comme une poupée russe, la plus récente se superposant à l'antérieure, l'assimilant et en même temps la dépassant, ayant une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus haute. Voilà donc les lois imposées à Noé, Abraham, Moïse, pour arriver finalement à la loi nouvelle. Mais cette loi nouvelle a une caractéristique tout à fait différente des antécédentes, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'un texte gravé dans la roche. Il ne s'agit pas d'un texte positif, comme on dit en droit, il s'agit d'une loi gravée dans le cœur. Grâce, c'est ce que nous dit saint Thomas d'Aquin, comment définit-on la loi nouvelle ? C'est intéressant, retenez bien ça, c'est la grâce de l'Esprit-Saint, donnée par la foi au Christ. Voilà ce qu'est la loi nouvelle. Grâce de l'Esprit-Saint, donnée par la foi au Christ. Avouez que ça ne fait pas très juridique, et qu'on est bien loin des conceptions étriquées de la loi. Il ne s'agit pas d'un code de loi qu'il faut compulser et apprendre par cœur, il s'agit d'une marque du Saint-Esprit au plus profond de nous. Elle est totalement intérieure, elle est totalement cordiale, cette loi nouvelle qui naît le jour de la Pentecôte dans le cœur des disciples. Et vous voyez, le prophète Jérémie l'avait annoncé, mais les anciens étaient encore incapables de recevoir le message. « Voici des jours, disait Jérémie, voici des jours, dit le Seigneur, où je mènerai à sa perfection nouvelle avec la maison d'Israël. » À sa perfection, l'alliance avec Israël. Car telle est l'alliance que j'arrangerai pour la maison d'Israël. Je donnerai mes lois dans leur esprit. Je les inscrirai dans leur cœur. Il ne s'agit plus du tout des lois abrahamiques, noachiques ou même encore mosaïques. Quelque chose qui est inscrit dans le cœur et dans l'âme. Vous voyez ? Il ne s'agit pas d'une gaine extérieure, il s'agit d'un guide intérieur. Voilà donc ce qu'est la loi nouvelle. Un guide intérieur. Plus précisément, il s'agit de rien moins que de la présence du Saint-Esprit en nous. Imaginez, présence d'un des trois en nous. Voilà ce qui se passe le jour de la Pentecôte. Irruption du Saint-Esprit sous la forme de langue de feu et tremblement de terre, et tout tremblement comme on dit, et le Saint-Esprit s'imprime dans les âmes des apôtres. Incroyable. Mais il y a mieux encore, il y a plus beau encore. Que fait le Saint-Esprit lorsqu'il s'introduit aussi violemment dans les apôtres et en nous aujourd'hui, par le moyen de la liturgie, revivons la même chose d'une certaine manière. Que fait-il ? Alors vous allez me répondre, oui, il leur donne le don des langues, c'est très bien, c'est pas suffisant. Il leur réchauffe le cœur, il leur donne beaucoup de joie, c'est très beau et c'est très vrai. Mais vous voyez bien que c'est encore insuffisant, non ? Il va beaucoup plus loin. Il fait naître Jésus-Christ en eux. Voilà de quoi il s'agit. Faire naître Jésus-Christ en nous. Alors ceux qui advient le jour de la Pentecôte, vous trouverez peut-être la comparaison un peu osée, elle vient des pères, elle vient de la tradition la plus orthodoxe. Ce qui advient au jour de la Pentecôte, c'est analogiquement, c'est-à-dire qu'il y a plus de dissemblance que de ressemblance dans ce que je vais vous dire, et analogiquement ce qui se passe en Marie le jour de l'Annonciation. Et qu'a dit l'ange à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Qu'advient-il ensuite ? Le Verbe prend chair dans les entrailles de la Vierge Marie. jour de la Pentecôte, que se passe-t-il? L'Esprit Saint prend sous son ombre, et on voit comment. Les actes des apôtres sont quand même assez clairs. Il les écrase sous son ombre, on pourrait dire. Il les prend sous son ombre, les proches du Seigneur qui sont là, et d'une façon moins parfaite qu'en Marie, on est tout à fait d'accord. Ils n'ont pas le privilège d'être Théotokos, mère de Dieu. Voilà, on est tout à fait d'accord. Mais d'une façon bien réelle pourtant, ils conçoivent, grâce au Saint-Esprit, Jésus en eux-mêmes. Vous voyez ce que fait le Saint-Esprit, et c'est le but de la loi nouvelle. La loi nouvelle, c'est cette habitation, c'est cette grâce donnée par le Saint-Esprit, par la foi au Christ. Bon. Le Saint-Esprit vient en nous, il y fait naître Jésus. Et ça, c'est la loi nouvelle. Quand même autre chose qu'une loi musulmane, une loi même de l'ancienne alliance. On est là à des milliers de kilomètres de cette conception. Il vient en nous pour réparer l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image et ressemblance. À cause du péché, nous avons défiguré l'image. Il restaure cette image, le Saint-Esprit, mais il va beaucoup plus loin. Il va même jusqu'à conformer nos traits intérieurs aux traits de l'image incréée, de l'icône du Père, c'est-à-dire du Fils. Bienheureuse faute. Il n'y avait pas eu cette faute. Y aurait-il eu cette reconstruction et cette configuration au Christ? Je ne sais, la tradition se dispute. Voilà. C'est ainsi qu'il faut comprendre Saint Paul. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous des enfants de Dieu, dit Saint Paul, et qui nous permet de crier à Dieu, Abba Père. Et parce que nous sommes configurés par le Saint-Esprit au Fils, qu'alors, comme le Fils, nous pouvons nous écrier à l'égard du Père, Père, Abba. Jamais nous n'aurions pu, s'il n'y avait pas eu la Pentecôte et le Saint-Esprit venu imprimer en nous les traits du Fils, nous ne serions pas devenus des fils adoptifs de Dieu et nous n'aurions pas ce privilège de pouvoir nous dire fils de Dieu, frère du Christ. Très loin donc de toute vision qu'on pourrait avoir a priori de la loi avec une espèce de charia. Rien du tout. La loi nouvelle, c'est Jésus imprimé en nous par le Saint-Esprit, notamment en plénitude le jour de la Pentecôte. Voilà. C'est pour ça que Jésus dit que sa loi est un joug facile et un fardeau léger. Il n'est pas ironique, il ne se moque pas de nous. C'est vrai qu'en définitive, au-delà des persécutions, au-delà des douleurs, cette perspective est tout de même très consolante. Voilà une loi tout intérieure. Deuxième dimension, mais là je serai beaucoup plus bref, rassurez-vous. Deuxième dimension de la fête de Pentecôte. Je vous disais que premier événement de Pentecôte, don de la loi nouvelle et constitution d'un peuple nouveau, par l'image du Fils grâce au Saint-Esprit. Deuxième dimension de la Pentecôte, les prémices de la moisson apostolique. C'est-à-dire que ce renouvellement intérieur des apôtres comporte en lui-même intrinsèquement un dynamisme. Les apôtres ne restent pas là comme des potiches configurés à Jésus et heureux de jouir de la présence du Saint-Esprit et de leur présence mutuelle. Vous pensez bien que le Saint-Esprit qui vient sous les traits du feu, qui les enflamme, eh bien, les appelle à aller diffuser cette même flamme. Et immédiatement, le jour même de la Pentecôte, on observe la première fécondité apostolique. C'est pas étonnant du tout, puisque le Saint-Esprit est amour. L'amour embrasant les fidèles porte ses fidèles vers l'extérieur. L'amour est extatique. L'amour, on a envie de le diffuser, le bien diffusif de soi. L'amour porte jusqu'aux confins de l'univers pour aller dire ce dont on a vécu. Eh bien, c'est ce que font les apôtres. Que font-ils exactement? Qu'annoncent-ils? Et ça, c'est très instructif pour nous. La première chose qu'ils disent, ce n'est pas prendre un tableau noir et une craie pour faire des dessins théologiques, pour expliquer comment fonctionne la Trinité, pour expliquer tout ce qu'ils ont reçu pendant 3 ans de l'enseignement du Christ, pas du tout. Ils apportent comme premier enseignement, on l'entend de la bouche même de ceux qui les observent, nous les entendons proclamer dans notre langue les merveilles de Dieu. Le terme de merveille, en grec, est exactement le même, c'est megaleia. Megaleia, c'est le même mot exactement que dans le Magnificat de la Vierge Marie. Ils viennent nous enseigner le Magnificat. Qui n'a rien d'une construction intellectuelle froide, qui n'est qu'une prédication spontanée sous la dictée du Saint-Esprit et qui n'a d'impact sur les auditeurs que parce qu'il est enflammé d'amour. C'est ces premières paroles que vous pouvez avoir spontanément vis-à-vis de personnes que vous ne connaissez pas encore ou qui ne sont pas encore disposées et à l'égard desquelles vous pouvez simplement dire ce que Dieu fait de beau, les merveilles de Dieu. Et mieux que ça, je pense que même en se taisant, normalement le bon apôtre porte sur ses traits cette merveille de Dieu. On voit qui est catho et qui ne l'est pas en le regardant. Il prêche par la simple posture qu'il a, la bonté qu'il a. Cette bonté est totalement du Christ. Voyez, ce n'est que dans un deuxième temps que viennent les enseignements, le catéchisme, la prédication beaucoup plus formelle. Juste après ce texte d'aujourd'hui, Pierre prend la parole et enseigne le catéchisme à ces gens qui ont été d'abord touchés jusqu'au fond des tripes en voyant ces merveilles de Dieu. Pour nous, c'est la même chose. Avant de dispenser des enseignements très ronflants et très rationnels, il faut d'abord se contenter d'annoncer les merveilles de Dieu, et même silencieusement, si on ne peut pas faire mieux. Ça, c'est du vrai prosélytisme. C'est incroyable, puisque, je vous le disais tout à l'heure, immédiatement, avoir vu, entendu plutôt parler de ces merveilles, et après un rudiment de catéchisme, 3000 personnes furent baptisées ce jour-là. Je vais simplement conclure en parlant de Marie, comment ne pas parler de notre très sainte Mère du Ciel, à la fin d'un sermon comme ce sermon sur la Pentecôte. Marie, je voudrais juste attirer votre attention sur un petit détail. La Vierge Marie, le jour de l'Annonciation, a joui d'un privilège extraordinaire, être la Mère de Dieu, par accepter le don de Dieu, coopérer au Saint-Esprit, or le Verbe s'est fait chair en elle. Mais observez qu'à la Pentecôte, elle est toute donnée, elle ne garde pas pour elle ce privilège, elle aurait pu se acter, elle aurait pu mettre quelques jalousies, pas du tout. Elle est là comme médiatrice au sein des apôtres, toujours aussi silencieuse, et elle permet aux apôtres, eux aussi, de concevoir en leur sein, par une coopération au Saint-Esprit, le Seigneur Jésus. À leur manière, encore une fois, il n'y a qu'une analogie entre ce qui se passe dans les entrailles de Marie et ce qui se passe dans l'âme des apôtres, mais tout de même. Vous voyez que la Vierge Marie est à la Pentecôte, on ne fait même pas allusion à elle, si dans les saintes femmes, avant ce récit, ôte déjà, pleinement, déjà et encore, parce que toute la vie du Christ, elle l'était, déjà vis-à-vis de l'Église, médiatrice dans cet ordre de l'enfantement du Christ. Voilà un petit peu les joyaux, parce que je pense que ce sont vraiment des joyaux, que je voulais partager avec vous, et vous voyez la profondeur de cette fête de Pentecôte. Je crois que ce n'est pas seulement le don de parler en langue, comme pourraient l'interpréter certains charismatiques, ce n'est pas seulement le don de ressentir le puic-puic au fond de soi qui nous est fourni par Dieu aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. C'est le Christ qui naît en nous et qui exerce en nous son rôle de prêtre, de prophète et de roi sous la médiation de Marie. Voilà. Écoutez, avec ça, je pense que vous avez de quoi passer un octave ou une octave, on ne sait jamais, de Pentecôte, un petit peu regonflé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.